بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، وفتحت السماء فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. شفران الإسلام، nous avons lu des versets concernant l'autre partie de la sourate An-Naba, après qu'Allah Rabbul Izzah ait rappelé le retour vers lui et le fait que les mécréants n'acceptaient pas les informations révélées de le Coran, et principalement l'information concernant Al-Ba'ath wa An-Nushur, la mort, la résurrection, le retour auprès d'Allah, la vie après la mort. Allah Azza wa Jalla ensuite va rappeler à l'homme la perfection de sa création, création des cieux, de la terre, création des montagnes, il a ghayri dhalik, et tous les autres makhlouqat, tout ce qui nous entoure, et qu'Allah Azza wa Jalla nous rappelle comment ces choses-là sont en fait des bienfaits, des ni'ma, dans le but, avec pour objectif, que l'homme reconnaisse que tout ça c'est la créature d'Allah, et que nous soyons convaincus de la puissance d'Allah Azza wa Jal, qui a créé asnaf al-makhlouqat, différentes sortes de créatures avec différentes formes de beauté, différentes fonctions dans l'écosystème, dans l'organisation de la création d'Allah Azza wa Jal, que l'homme prenne conscience que tout ça c'est la création d'Allah Rabbul Izza, que son iman augmente, qu'il y voit là la grandeur d'Allah Azza wa Jal et sa puissance, et qu'il remercie Allah pour les bienfaits, pour toutes ces choses qui lui sont profitables, et qu'il n'utilise pas ces bienfaits dans la désobéissance. Donc tout ça c'est l'objectif du rappel concernant la création d'Allah Azza wa Jal. Après qu'Allah Rabbul Izza donc donne l'exemple de ses créatures et termine avec le ciel, la pluie, la vie, d'accord, l'eau plus le soleil qui est à la base de la vie, bi'idhnillah. Ensuite, Allah Azza wa Jal va parler d'une autre étape. C'est l'étape du retour auprès de lui. Inna yawmal fasli kana miqata. Et le terme, subhanallah, qui est employé dans le verset 17 de Surat An-Naba, le jour de la décision du jugement à son terme fixé. Inna yawmal fasli kana miqata. Le jour de la décision. Al-fasl, c'est ce qui sépare, ce qui va distinguer. Ça a été traduit par le jour de la décision. C'est une bonne traduction, mais d'un sens plus général, al-fasl. Quand on dit al-fasl, si on sépare en deux catégories de personnes. Donc, on parle de qiyam, hein, c'est le jour où on sépare entre ceux qui sont dans le droit chemin et ceux qui sont dans le mauvais chemin. Ces personnes qui étaient dans le mauvais chemin et qui, entre guillemets, paradoxalement pour nous, ils avaient le pouvoir, ils dictaient leurs lois. On avait l'impression que c'est eux qui commandaient, c'est eux qui s'attribuaient les qualités des meilleures civilisations et qui nous montraient parfois du doigt, ceux qui sont dans le Sirat al-Mustaqim, ils étaient montrés du doigt comme étant, subhanallah, comme étant complètement archaïques ou alors en décalage avec les réalités de la société. Il arrive, et ainsi de suite, tous les discours qu'on entend, tout ce qu'on veut bien nous faire entendre, tout ce qu'on veut bien véhiculer comme message négatif sur notre religion, sur nos principes, et nous faire comprendre que la vérité, que l'épanouissement de l'homme se trouve à travers cet humanisme présenté par l'Occident, et que les principes de l'islam concernant la femme, concernant telle chose, ce sont des principes archaïques. Tout ce qu'on entend, tout ce qui parfois nous attriste, tout ce qui parfois nous protège, parfois nous met des doutes, hein, dans le cœur, on finit par se demander, est-ce qu'il n'aurait pas raison? De toute façon, qu'on ait la conviction, ou qu'Allah nous protège des doutes, ou alors que ce soit comme ces personnes, Amma yatasaaloun, ceux qui ne comprennent pas, qui n'acceptent pas, qui ne veulent pas croire en la résurrection, ce jour de Qiyam, c'est Yawm al-Fasl, c'est le jour où tout sera clair et les gens seront séparés en catégories. Dans ce dunya, vous avez parfois même parmi les Ahlul Iman, les gens qui ont la foi, vous avez des munafiqines, des hypocrites, des personnes qui viennent, qui prient, mais en réalité, ils n'ont pas vraiment la foi de leur cœur. Vous avez parfois également des gens qui, devant vous, ils sont extrêmement plaisants, ils ont le meilleur des caractères, et lorsque vous êtes absent, ben, ce sont les premières personnes à vous critiquer, à avoir un autre type de comportement. C'est-à-dire de ce dunya, parfois, on a du mal d'y distinguer les gens qui sont réellement dans le droit chemin, mais Allah ne nous demande pas de toute façon de juger les gens. Il nous a jamais été demandé de juger l'intérieur des gens. Il nous est demandé de juger par rapport à l'extérieur. Cette personne se dit mu'mine, on l'accepte comme étant mu'mine. On ne va pas aller chercher quels sont ses péchés, quels sont ses manquements du tout. Maintenant, le jour où chaque personne aura une réelle identité, ce sera le jour de Qiyam. On pourrait dire que dans les grands signes de Qiyam, les derniers grands signes de Qiyam, lorsque Adab, lorsque la bête, ça c'est le prochain programme, Inch'Allah, ce mardi à Saint-Denis, lorsque Adab, la bête, va apparaître à la fin des temps, l'objectif de l'apparition de Adab, de la bête, c'est de distinguer les gens qui sont dans le haqq, des gens qui sont dans le batil, les gens qui sont dans le droit chemin, des personnes qui sont dans le mauvais chemin. Et à partir de ce moment, ceux qui sont dans le mauvais chemin, ceux qui sont dans le kufr, le shirk ou dans les péchés, ne peuvent plus revenir vers le droit chemin. Parce que c'est une époque où il n'y a plus de tawba, il n'y a plus de retour possible vers Allah Azza wa Jal. Vous voyez que ça va concerner une certaine quantité de personnes vraiment à la fin des temps. Mais dans ce dunya, on ne peut pas vraiment savoir qui est réellement de le droit chemin, qui sont nos vrais ennemis, qui c'est qui a la conviction à 100%, qui c'est qui doute. Mais le jour de Qiyam, c'est Yawm al-Fasl. C'est le jour où tout sera clair. Inna Yawm al-Fasl en commentaire. Yawm al-Fasl explique. Wasummiya, ça a été décrit, ça a été appelé Yawm al-Fasl. Li'anna Allah, parce que le jour de Qiyam, Allah Azza wa Jal va également faire le jugement entre les gens par rapport à ce qui les opposait. Lorsqu'on a des divergences, lorsqu'on a des oppositions avec notre prochain, c'est pas forcément entre le shirk et le kouf, ça peut être même des problèmes internes. Ça peut être des problèmes sur le plan familial, ça peut être, je ne sais pas moi, des problèmes sur le plan du travail, des accrochages, des injustices, où en finalité on se sépare avec, on va dire, sans prendre de décision. On se sépare sans vraiment être satisfait de notre jugement, de ce qui a été porté comme jugement. Mais le jour de Qiyama, c'est ce jour-là où Allah Rabbul Izzah va également distinguer ceux qui avaient raison de ceux qui avaient tort. Donc ce n'est pas uniquement, ça ne s'appelle pas Yawm al-Fasl uniquement parce que c'est le jour où on distinguera les Ahlul Tawhid, les gens qui avaient la foi de leur cœur, des personnes qui ne croyaient pas. Non, ce n'est pas uniquement cela. C'est également le jour où tout sera jugé entre ceux qui avaient raison, ceux qui n'avaient pas fait du tort à leur prochain et ceux qui étaient dans le batil, ceux qui étaient zalim, qui ont fait du tort à leur prochain. Et également, baina ahlil haqqi wa ahlil batil, ça on a expliqué, wa ahlil kufri wa ahlil iman, bien sûr, entre ceux qui avaient la foi et ceux qui étaient dans le kufr, wa ahlul udwan wa ahlul i'tidal, entre ceux qui faisaient du tort aux gens et ceux qui recherchaient la vérité, la justice, et bien sûr, en conclusion, baina ahlil jannah wa ahlil nar. Et ça, ce sera, on va dire, le dernier fasl, la dernière séparation entre ceux qui sont destinés au jannah et ceux qui sont destinés, sallallahu alayhi wa sallam, au jahannam. Et ce fasl, cette séparation, cette distinction, on pourrait dire que ça va se voir le jour de Qiyam dès la résurrection. Parce que les croyants seront ressuscités avec les croyants, les munafiqin avec les munafiqin, les mushrikin avec les mushrikin. Le prophète alayhi salat wa salam avait expliqué une fois aux sahaba, al-mar'u ma'a man ahabba, que chacun sera avec la personne qu'il aimait. C'est-à-dire que si une personne développe l'amour, par exemple pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant toute sa vie, et que la personne fait une priorité hein, du fait de suivre la sunna, incha'Allah, cette personne sera avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Qiyam. Donc les gens seront ressuscités en fonction de leur niveau spirituel, de leur avancée dans la religion, de leur état de iman. Donc déjà, cette séparation, on va le voir à la résurrection, lorsque les gens seront ressuscités. Comprenez bien que les sahaba et les pécheurs ne seront pas ensemble. Maintenant, la personne qui est ressuscitée, il se retrouve avec les gens pieux, les sahaba, « ma'an nabiyyin, wa siddiqin, wa shuhada'i, wa salihin, subhanallah ». Ça, c'est la meilleure des situations, la meilleure des mahshar, la meilleure des résurrections, c'est d'être avec eux. Ma'an nabiyyin, les prophètes, wa siddiqin, les véridiques, wa shuhada, ceux qui ont donné leur vie pour Allah, wa salihin, et les gens qui étaient pieux. Wa hasuna ulaika rafiqa. Il n'y a rien de mieux que d'être avec ces gens-là le jour de Qiyam. Également, le fasl, la séparation, on va plutôt dire la distinction, c'est plus adapté. La distinction se fera également au moment où les livrets de compte seront remis. Là, on verra, ce sera une autre distinction. On va voir la distinction entre ceux qui reçoivent de la main droite, Allahumma ja'alna minhum, dites amin, et ceux qui le reçoivent de la main gauche derrière leur dos. Donc là, ça devient extrêmement clair. Là, on n'a rien à cacher. La distinction se fera également au niveau du tribunal d'Allah Azza wa Jal, entre la personne qui sera appelée et qui se rendra compte qu'il n'a, subhanallah, pas de péché dans son livret de compte, et celui qui est appelé, qui est accablé de questions, de reproches de la part d'Allah Azza wa Jal, et cette personne n'aura rien à répondre auprès du tribunal d'Allah Azza wa Jal par rapport à ses péchés. Dans ce dunya, on trouve mille et une excuses pour nos erreurs. Dans ce monde, on va trouver, on va inventer, on va s'auto-excuser pour nos manquements dans les bonnes actions et pour nos péchés, mais devant le tribunal d'Allah, je vous assure, les raisons qu'on avait données la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand les personnes ne donnent pas, subhanallah, ne donnent pas l'éducation spirituelle suffisante à femmes et enfants, d'accord, un mari qui laisse son épouse sortir avec une tenue vestimentaire qui n'est pas celle de l'islam, et qui se dit que tout compte fait, on habite dans un pays occidental, on vit à une époque où c'est comme ça, et que Allah va pardonner, mon cœur est propre, tout ça ce sont des alibis. On essaie de trouver des excuses, on essaie de cautionner nos manquements, ça marche dans ce monde. Ce discours, ça peut aller avec les gens de ce dunya, mais devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal, ces excuses-là n'auront aucun poids. Et Allah est le seul juge, nous ne jugeons personne, Allah est le seul juge, mais notre devoir, c'est de transmettre ce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis. Également, parmi les autres fasl, les autres distinctions, c'est le moment de passer sur le sirat. Et au moment de passer sur le sirat, selon la majorité des savants, c'est uniquement les ahlu tawhid, ceux qui ont la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, ce sont uniquement ces personnes qui vont passer sur le sirat. On a déjà expliqué, je crois ici, ou alors dans Riyad al-Salihin, le sirat, c'est un pont suspendu sur le jahannam. Et l'aboutissement de ce sirat, c'est le jannah. Chaque croyant, chaque mu'min, chaque personne ici présente sera présentée devant son sirat et devra traverser ce pont pour espérer accéder au Jannah. Et donc, pourquoi est-ce que, selon les savants, pourquoi est-ce que les gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas iman, ils ne traverseront pas ce sirat? Parce que ce sirat, c'est le dernier ikhtibar, c'est la dernière épreuve pour voir qui peut accéder au Jannah et qui ne peut pas y accéder tout de suite. Et ceux qui ne doivent pas du tout accéder au Jannah, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas la ilaha illallah de leur cœur, ben ces personnes-là, ils seront déjà dans le Jahannam avant d'arriver à cette dernière étape. Donc certains, et là on va voir encore Yawmul Fasl, la distinction, certaines personnes vont passer à la vitesse, subhanallah, de l'éclair, d'autres comme à la vitesse du vent, d'autres comme un cheval qui galope, et ainsi de suite, différentes métaphores que notre prophète, alayhi salat wa sallam, différents exemples qu'il nous a donnés, pour nous faire comprendre qu'il y a des darajat, il y a différents degrés. Ce serait, j'allais dire, idéaliste ou idyllique, c'est même pas le terme, ce serait naïf, un terme un peu plus méchant, ce serait naïf de penser que tous les croyants iront au Jannah bi ghayri hisab. Ce serait magnifique. Et le fait de dire que les gens, que tous ceux qui ont la ilaha illallah, ne vont pas aller dans le Jannah sans rendre compte, ça ne veut pas dire que nous ne croyons pas aux qualités d'Allah qui est Rahman, Rahim, Clément, Miséricordieux, là Allah. Mais c'est que nous croyons ces qualités d'Allah Azza wa Jal, mais nous croyons également qu'Allah est Shadid al-Iqab. qu'Allah est sévère dans sa punition et que nous croyons tous les ayats de Al-Wa'idu et les ayats de Al-Wa'id. Et ça, c'est un point de Aqidah al-Sunnah wal-Jama'a un peu complexe, technique, mais très important. De faire la distinction, on revient sur le terme, entre les termes de Béchara, les termes qui annoncent la bonne nouvelle, la clémence d'Allah, l'accès au paradis, le pardon des péchés, l'acceptation du Tawba, qu'Allah est capable de pardonner l'intégralité des péchés d'un homme, et en même temps d'accepter les textes qui prouvent que les gens des Ahlul Tawhid, les gens qui ont la ilaha illallah, de leur cœur à cause de leurs péchés, certains devront aller dans l'enfer pour expier ses fautes. On doit trouver le juste milieu entre les deux catégories de versets. C'est ce qu'on appelle at-targhib wa tarhib également. C'est une façon un peu plus facile de le dire. Les encouragements dans les bonnes œuvres et la mise en garde contre les péchés. Sinon, on sombre vers différents courants de aqidah qui sont apparus dans l'histoire entre les murji'a et les ahli takfir. Et les ahli takfir, Allah seul sait comment. Ils continuent à causer des problèmes dans pas mal de pays arabes. Il a réalisé Ali que ceux qui considèrent ceux qui font des péchés comme étant des gens du Jahannam, qu'il n'y a pas de tauba possible, c'est un extrême. Tout comme l'autre extrême, les personnes qui pensent que, quelle que soit la quantité de péché, Allah Rahman Rahim va nous pardonner, il va nous faire tous entrer au Jannah. Une fois, on était jeunes, on discutait avec des jeunes, on sortait en. On allait en week-end ensemble, et il y en a un qui disait que de toute façon, moi je suis persuadé, enfin lui il est persuadé. Alors, c'est peut-être qu'il a un autre canal, il a une autre révélation, mais ce n'est pas du tout conforme au Coran et Sunna. Il dit que moi je suis sûr que le jour de Qiyama, Allah va dire à chaque croyant de se lever et d'aller tous dans le Jannah. On a dit, waouh, ce serait magnifique. Mais comment est-ce qu'on distinguera ceux qui prient 5 fois par jour de ceux qui ne prient pas? Ceux qui, subhanallah, le samedi soir, ils restent chez eux avec la famille. Ceux qui vont faire la fête en boîte de nuit, se saouler, faire le zina, l'adulter, écouter la musique. Il n'y a pas une justice, il n'y a pas une équité sans le moindre doute qu'il y a une équité. Quand on analyse l'ensemble des ayats du Coran et l'ensemble des textes prophétiques, nous voyons al-adl, qu'Allah est juste. Allah est capable de pardonner également parce qu'Allah seul sait l'intérieur des gens. Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous sommes persuadés que le jour de Qiyama, ça s'appelle Yawm al-Fasl, où Allah va distinguer, il y aura la distinction, Allah va distinguer entre les gens qui étaient dans le shirk et le kouf et les gens qui étaient dans l'islam. Et parmi ceux qui sont dans l'islam, ceux qui étaient dans le droit chemin tout le temps, de ceux qui faisaient des péchés sans jamais demander pardon et qui sont restés fasiq et qui sont mordants dans le fisq. Qu'Allah nous protège. Adam. Et donc, ça, la dernière étape où on va voir le fasl, cette distinction, c'est le sirat. Et enfin, même dans le Jannah, on va dire, là on ne parle plus de distinction, mais même dans le Jannah, on a ceux qui sont dans le Firdaus, Al-A'la, les plus hauts degrés, de ceux qui sont dans les autres degrés du Jannah. Mais à partir du moment qu'on parle du paradis, ce n'est plus une distinction parce que ce sont tous des gens qui ont été acceptés par Allah Azza wa Jal. Allahumma ja'alna minhum. Donc voilà l'origine du mot fasl. Inna yawm al-fasli kana miqata. Miqata a son terme fixé. La traduction, ça va, ça se rapproche. On connaît le terme miqat qu'on va faire au hajj. Le hajj aussi, le miqat. On va dire que c'est quelque chose qui est fixe. C'est quelque chose qui est, on va dire, c'est un lieu. Le miqat, c'est plus sur le plan, là on va dire, sur le plan espace. Mais quand on dit miqata pour le qiyama, c'est. Ça rejoint la traduction, un terme fixé. Et ce terme fixé, bien sûr, n'est connu que d'Allah Azza wa Jal. On ne va pas revenir sur les versets de la fin de Wan-Nazi'at. Allah seul sait quand est-ce que ce qiyama aura lieu, mais on est sûr qu'il aura lieu. Comme on avait vu dans la dernière partie de Wan-Nazi'at. Et nous savons également que le jour de qiyama, il y aura une distinction entre Ahlul Haqq et Ahlul Batil. Et cette distinction, elle va même plus loin. Elle va même entre les musulmans. Ça peut être entre les gens pieux. Quand il y a eu des discordes, il y a eu des affrontements, il y a eu des litiges et qu'on n'a pas trouvé et que les gens ne se sont pas excusés, c'est ce jour-là qu'Allah Azza wa Jal va régler les problèmes. D'où le verset Maliki Yawmiddin. Allah, c'est le maître du jour, le jour de la rétribution parce que c'est lui qui va juger entre les gens. D'accord? Donc, cette conviction que miqata, c'est un moment, c'est un événement qui aura lieu et que lorsqu'il aura lieu, il y aura cette distinction. Maintenant, en conclusion, mon fasil dit وَمَا ظَنُّكَ بِشَيْءٍ لَهُ أَجَلٌ مَعْدُودٌ وَأَنْتَ تَرَى الْأَجْلِ كَيْفَ يَذْهَبُ سَرِيعًا يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ. On va dire sa réflexion est assez longue. Il dit que dis-tu aux croyants
d'un événement qui a été fixé par Allah et qui se rapproche jour après jour, et que tu vois les jours défiler, les mois s'enchaîner, les années également défiler, et que tu restes inattentif, tu restes dans l'insouciance. Est-ce que le croyant qui voit ces jours défiler et il sait que chaque jour qui passe est un jour qui le rapproche de la mort. Chaque jour qui passe, c'est un jour qui nous rapproche de ces événements de l'au-delà, de Yawm al-Fasl. Mais comment est-ce qu'on peut rester dans Rafla, dans l'insouciance? C'est la question que nous faisons, demande à chaque personne de se poser, quand on a tous cette conviction, sinon on ne serait pas musulman. Nous avons la foi, nous savons qu'il y a un Qiyama, mais la cohérence, elle est où notre cohérence? On fait appel souvent à la cohérence dans pas mal de domaines, mais dans ce maw'id, dans ce rendez-vous avec Allah Azza wa Jal, où nous sommes tous conscients qu'un jour je vais répondre auprès d'Allah de ses actes. Quand j'ai grandement besoin d'un prêt, d'un emprunt avec la banque pour acheter, je ne sais pas, un fonds de commerce ou une voiture ou acheter une maison, et que j'emprunte cet argent haram avec l'intérêt, riba, avec la banque, je sais qu'un jour je retourne auprès d'Allah, mais je le fais quand même. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence? C'est comme si que vous allez faire une analyse de sang, un bilan sanguin complet demain samedi, et que donc vous savez que bon, avant le bilan, il faut, je sais pas moi, si vous voulez pas qu'il y ait trop de dégâts dans vos résultats, ben il faut pas consommer n'importe quoi, et qu'une semaine avant vous mangez plein de gâteaux, plein de sucre, vous buvez du coca, puis c'est normal que quand vous avez fait votre analyse de sang, il y aura un taux de, on appelle encore ça, de glycémie, d'accord, barakallahu fik, il y aura un taux de glycémie grimpant, affolant. C'est-à-dire que ben, tu savais qu'il y avait ce moment-là où on va voir les résultats de ton analyse de sang, donc il ne fallait pas consommer n'importe quoi, il fallait quand même avoir un régime équilibré. Quoique ce n'est pas une finalité, on va dire que l'exemple est décalé. Mais de la même façon, nous savons qu'il y a un retour auprès d'Allah, nous savons exactement quand est-ce qu'on emprunte le droit chemin et quand est-ce qu'on emprunte le mauvais chemin. On le sait ça. Parce que si on ne le savait pas, ça aurait été pardonné par Allah. Quelqu'un qui a accompli un péché par jahl, par ignorance totale, il ne connaissait pas que c'était interdit, Allah ne le punira pas, inshallah. Mais quelqu'un qui sait que c'est haram, il le fait quand même, tout en sachant qu'un jour il retournera auprès d'Allah Azza wa Jal. Il y a une incohérence. Dans ce cheminement, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Donc le Mufassir dit, maintenant, ô musulmans, qu'on a vu encore un verset qui prouve que le retour auprès d'Allah est haq, nous y croyons, parce que ceux qui, amma yatasa'aloun ani naba'il azim, eux, ils n'y croyaient pas. Alors, eux, ils n'y croyaient pas. Donc, quelle était leur réaction? Ils vivaient comme ils voulaient. Ils buvaient, ils mangeaient, halal, haram, mangeaient des cadavres, ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils étaient injustes envers femmes et enfants, ils faisaient des choses horribles, les politistes, les gens avant l'islam. À partir du moment où ils ne croyaient pas à la résurrection, il est donc normal qu'ils avaient une attitude totalement, on va dire, contraire au principe de notre din. Mais vous, c'est-à-dire nous, Ahlul Iman, qui lisons « Inna yawm al-fasli kana miqata » que nous avons la conviction qu'il y a un retour auprès d'Allah et qu'il y aura une distinction en ceux qui étaient dans le droit chemin et dans le mauvais chemin, si en finalité nous avons un mode de vie qui est comme les polythéistes de la Mecque, qui est comme les musulmans qui n'avaient pas la foi, ça veut dire que là il y a une incohérence totale. Ça veut dire que nos choix doivent être encadrés, doivent être limités en fonction du halal et du haram. La frontière entre ce qu'Allah a décrété comme licite et ce qu'Allah Rabbul Izzah a décrété comme illicite. Chaque choix, chaque parole, chaque décision, chaque jour qui passe, nous devons faire en sorte que cela soit conforme aux ordres d'Allah et qu'en aucun cas nous ne franchissons la limite qui a été fixée par Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Et justement, on expliquait ça à des élèves, des grands, hein, des lycéens, il y a quelques jours. On a vu un hadith avec donc des élèves de 15-16 ans, et quand on leur explique un hadith, qu'on aime bien faire, c'est faire en sorte que c'est eux qui commentent, faire en sorte qu'on leur donne les pistes, on lit le hadith, on lit la traduction et on laisse les élèves trouver eux-mêmes de quoi parle le hadith et qu'eux-mêmes ils arrivent aux conclusions. Ils arrivent, on n'en fait pas des commentateurs de hadith bien sûr, mais qu'au moins ils arrivent à extraire d'eux-mêmes les grandes règles à travers chaque texte prophétique. Et on avait vu le hadith basique, on en a cité, subhanallah, je ne sais pas combien de fois on en a parlé ici, le prophète alayhi salatu wasalam dit, ya yuhannas, toubou ilallah, fa inni atoubou ilallah fil yawmi mi atmarra. Oh, Jean, demandez pardon à Allah, sachez que moi, messager d'Allah, je demande pardon à Allah au moins mi atmarra, au moins 100 fois par jour. Donc, on fait le tour du hadith avec les élèves. On demande qu'est-ce qu'ils comprennent. Est-ce que le hadith parle de la zakat, du jeûne, du watcha, de spiritualité? Donc, ils comprennent que ça parle du istighfar. Je demande c'est quoi le istighfar, la définition du istighfar, comment est-ce que vous concevez l'istighfar, de quoi, à partir de quel moment il faut demander pardon, qu'est-ce que vous appelez péché, c'est quoi la notion de péché, listez-moi les péchés de votre quotidien, et ainsi de suite. Jusqu'à arriver à une conclusion et demander à ses élèves quelle est la pire des choses. Est-ce que c'est l'homme qui accomplit des péchés? Et ils disent oui. Ils disent, ce qui serait dramatique, c'est que quelqu'un fait des péchés, fait beaucoup de péchés. Et on a donné notre orientation. Je dis que non, sans minimiser les péchés, bien sûr, enfin, de le contexte, hein, ils avaient bien compris. Je dis que la pire des situations, c'est pas qu'une personne commette des péchés tous les jours, non. La pire des situations, c'est qu'un musulman commette des péchés yaoumiyan, régulièrement tous les jours, mais qu'il ne s'en rend même plus compte. Et qu'il vit dans, justement, le terme qu'on a dit tout à l'heure, al-rafla, dans l'insouciance. Chaque fois, al-rafla, c'est grave ça. Vivre dans l'insouciance, Allah musta'an, qu'Allah nous protège. Ça veut dire quoi, vivre dans l'insouciance? Barakallah fik. Vivre dans l'insouciance, c'est que du matin au soir, on va cumuler des péchés, différentes catégories de péchés, mais qu'on est tellement habitué à faire ces péchés, qu'à un moment donné, ça fait partie de notre quotidien, qu'on ne se rend même plus compte qu'on est dans l'erreur. À partir du moment où une personne vit dans l'insouciance de la rafla, cette personne ne trouvera aucune nécessité, ne ressentira pas la nécessité de demander pardon à Allah Azza wa Jal. Du coup, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande de faire, demander toubou ilallah, cette personne ne le fera jamais. Pourquoi? Parce que quand est-ce qu'une personne il demande pardon à Allah? On demande pardon à partir du moment où on reconnaît notre erreur. Mais quand la personne est dans l'insouciance, il ne demande pas pardon à Allah Azza wa Jal. Et on a donné quelques exemples du quotidien. J'ai dit, une personne qui a l'habitude de regarder, il y a un jeune homme qui regarde toutes les jeunes filles, les plus belles filles de le lycée, qui s'assoit, qui observe, qui fait le vigile. Il y a des amis qui sont vigiles là, donc on ne parle pas de vous, mais c'est une expression qui fait le vigile, qui veille, d'accord, les mensurations, ça c'est un test, c'est comme ça. Mais cette personne, est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il pense encore qu'il est de le péché? Non. Ce jeune qui, instinctivement, lorsqu'il se lève le matin, il met ses écouteurs et il commence à écouter son... Je ne connais pas les titres de musique, donc ça je ne peux pas vous donner des exemples. Donne-moi le tube de l'été, le dernier. Barakallah fiik, il a réussi le test, il fallait surtout pas dire, d'accord, moi mes références ça remonte, et en plus je n'y connais pas, alhamdulillah. Donc ce jeune qui le matin dit qu'il se réveille, il met ses écouteurs, et il commence, mes chers frères, c'est dramatique, parce que ce jeune là, il écoute cette musique du matin jusqu'à ce qu'il rentre en cours. Dès qu'il sort, il va en récréation, il écoute. Il écoute 15 minutes pendant la récréation, et ainsi de suite, entre midi et deux, il écoute, il vit avec sa musique, à aucun moment. Il va réaliser qu'il est dans le haram pendant des heures et des heures et des heures. Et lorsqu'on parle du danger de la musique, lorsqu'on explique que ça c'est haram, c'est un péché, ça t'éloigne d'Allah, ça t'éloigne de la compréhension du Coran, de taladdud. Tu ne profiteras pas des versets, ainsi de suite. Il y en a qui ne comprennent plus, qui tombent des nues. Quoi? J'ai tué personne. Je n'ai fait du mal à personne. Je n'ai pas fait de l'adultère. Mais ce que je mange, c'est halal. Et ainsi de suite, dit j'ai juste écouté des trucs, il va peut-être vous dire c'est de l'art aussi, d'accord? Ça c'est très grave. Quand on vit dans les péchés, qu'on ne se rend même plus compte que c'est un péché, Allah musta'an, c'est là qu'il y a du souci. Quand quelqu'un commet des erreurs, mais qu'il se sent mal, et qu'il se remet en question, ça c'est un signe, je ne sais pas si c'est un hadith, ça fait très longtemps que j'ai entendu ça, si quelqu'un a une indication, une source qu'il me le donne, est-ce que c'est un hadith ou c'est paroles de pieux prédécesseurs, dit que quand quelqu'un il se pose des questions, il se remet en question en permanence, il essaie de se resituer par rapport à son iman en permanence, c'est comme si qu'il fait un bilan de ses actions, de sa foi, où est-ce que j'en suis, est-ce que là c'est bon, est-ce que ma journée aujourd'hui c'était mieux que hier, est-ce que j'ai fait de bonnes œuvres, est-ce que je fais des péchés, même s'il y avait des péchés dans la journée, mais qui se pose des questions, qu'il a des remords, c'est un signe que cette personne est le droit chemin. C'est quelqu'un qui, mashallah, il a du bien, il y a du khair en lui, parce qu'il se fait du souci pour son iman. Même s'il fait des péchés, qui est-ce qui ne fait pas de péché? Qui est-ce qui de cette assemblée peut dire que depuis ce matin, Salat al-Fajr, jusqu'à Salat al-Isha, je n'ai pas fait un péché? Impossible, inhumain, inhumain. Et nous sommes des insans, nous sommes des êtres humains. Mais donc celui qui se remet en question, et donc la personne qui va demander istighfar 100 fois par jour, c'est quelqu'un qui sait que consciemment ou inconsciemment, je commets des erreurs, donc je me dois de demander pardon à Allah, afin qu'il ne reste pas, quand je dors ce soir, il ne faut pas qu'il y ait un péché de la journée de vendredi qui reste de mon livret de compte. Parce que la pire des choses, ce serait de démarrer samedi avec des péchés de vendredi qui sont restés ancrés dans mon livret de compte. Parce que lorsque le mu'min commet un péché, Allah Rabbul Izza ordonne à l'ange de patienter un instant, patienter quelques instants, patienter un certain nombre de temps pour voir est-ce que le moumine va demander pardon ou non. S'il demande pardon pour ce péché, le péché ne sera même pas inscrit dans son livret de compte. Ça, c'est la clémence d'Allah Azza wa Jal. Mais s'il demande, il ne demande pas pardon, c'est là que le péché est inscrit. Et l'autre conséquence du péché, c'est quoi? Non seulement il est inscrit dans le livret de compte, non seulement le membre du corps qui accomplit le péché va témoigner contre nous le jour de Qiyama, l'endroit où le péché a été accompli témoignera contre nous le jour de Qiyama, mais également, il y aura un point noir, ce qui va affaiblir à la fois un premier point noir qui se fixe sur le cœur. Et quand on cumule, le cœur devient noir et le cœur devient insensible. Tout ce qu'on avait expliqué. Donc la pire des situations, mes chers frères, ce serait d'être insouciant. Et nous devons demander protection à Allah Azza wa Jal contre l'insouciance. Vous vous rappelez dans... Il y a un ou deux cours de cela, lorsqu'on avait expliqué justement les gens qui ont le cœur endurci, qui n'entendent plus la vérité, qui ne comprennent plus la vérité, on a dit que la seule solution pour casser cette carapace qui s'est construite au cours du cœur, c'est istighfar. C'est demander pardon à Allah Azza wa Jal sincèrement. Mais justement, ce mu'min qui va demander istighfar au moins 100 fois par jour, on a grand espoir que ce cœur va se purifier, ce cœur va être lavé, et que du coup, cette personne, il aura de son cœur l'envie de faire de bonnes actions, et inshallah, il sera bien guidé par Allah Azza wa Jal. Demandons donc protection à Allah Rabbul Izza contre al-ghafla, contre l'insouciance. Donc, inna yawm al-fasli kana miqata, yawma yunfakhu fi s-sur fata'tuna afwaja. Le jour où l'on soufflera de la trompe, vous viendrez par troupe. Alors cette étape qui est an-nafkhu fi s-sur, on a le fait de que l'ange Isra fil alayhi salam soufflera dans la corne pour le qiyama une première fois et pour la résurrection une deuxième fois. On avait pas mal développé dans An-Nazi'at ou Abasa wa Tawalla et d'autres sourates. Donc il n'y a pas vraiment nécessité de revenir sur cette étape, juste qu'on retient qu'Allah Azza wa Jal ordonnera à l'ange d'Israfil de souffler une première fois et à ce moment il n'y aura plus une seule trace de vie sur ce dunya. Et ça, ça prouve également la puissance d'Allah. Celui qui est capable de tout créer est capable de tout reprendre en une fraction de seconde. Et lorsqu'il soufflera la même action qui a enlevé les rouh, les arwah restants de ce dunya, la même action aura pour résultat cette fois-ci de faire retourner les arwah, de faire retourner les âmes dans les corps des personnes respectives. Allah Azza wa Jal, par le même asbab, reprend la vie et par le même intermédiaire, il redonne la vie. Et tout ça, ça nous montre la puissance d'Allah Azza wa Jal. Ça fait partie des croyances sur lesquelles nous devons avoir conviction, la résurrection par l'intermédiaire de An-Nafru Fissur, donc Fata'tuna Afwaja, et vous viendrez par troupe. Yawma Yunfakhu Fissur, Fata'tuna Afwaja. Et puis il y a d'autres commentaires concernant quand les gens ils seront ressuscités, quelle sera la situation, comment sera la terre de la résurrection. Ce sont des points qu'on a déjà abordés, je pense, dans le passé. Ce qui nous intéresse, c'est la suite. Wa futihatis sama wa fakanat abwaba. Pourquoi ça nous intéresse particulièrement? Parce que ça nous permet de faire le lien avec les descriptions du ciel. Dans le début de Amma yatasa'aloun, lorsqu'Allah Rabbul Izza parle du ciel par ces termes, alors, on retrouve le verset. Bismillah. Et construit au-dessus de vous sept cieux, shidada, renforcés. Il y a la notion de shidda, le ciel est quelque chose de solide. Et là, on parle de wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Le jour. Non, et le ciel, donc, et le ciel sera ouvert et présentera des portes. Dans d'autres commentaires, dans d'autres hadiths, il dit, là, il y a le commentaire, infarajat فَتَكُونُ أَبْوَابًا فَيُشَاهِدُهَا النَّاسِ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Le ciel sera ouvert. Dans notre hadith, on parle du ciel qui sera fragmenté, comme du coton qu'on a effilé, qu'on a séparé. Que si vous avez un gros bloc de coton que vous séparez, vous avez séparé les morceaux, le ciel sera effrité de cette façon et le ciel va s'ouvrir. Et ça, c'est le jour de Qiyama. Autant ce ciel est décrit comme étant un élément solide dans la création d'Allah, le jour de Qiyama, ce ciel va s'ouvrir uniquement par ordre d'Allah Azza wa Jal. Ça rejoint également un verset qu'on avait expliqué, je ne me souviens plus de quel verset. On dit que le ciel et ainsi prendra cette forme et la terre prendra cette forme par ordre d'Allah Azza wa Jal. Peut-être que le verset nous reviendra. C'est-à-dire que toutes ces créations d'Allah Azza wa Jal vont suivre maintenant les ordres d'Allah pour avoir un autre rôle le jour de Qiyama. Et lorsqu'on commentait, le Mufassir dit que Fatakoun Abuaba sera comme des portes ouvertes, wa yushahidu hannas, et les gens vont maintenant voir. Qu'est-ce que les gens vont voir lorsque le ciel sera ouvert? Ça, c'est un programme qu'on avait fait il y a quelque temps concernant la description du Qiyama et de la résurrection. On avait dit qu'Allah Azza wa Jal ordonnera à chaque ciel de s'ouvrir, et à chaque fois qu'un ciel sera ouvert, il y aura un groupe, les habitants, les malaïkas de ce ciel qui vont descendre sur la terre du Mahshar. J'essaie de me rappeler du verset, si quelqu'un l'a en tête, un verset, subhanallah, le verset ne me revient pas, ce verset du Coran qui parle du ciel. Après, il y a Waja'a Rabbuka wal Malaku Saffan Saffa. D'accord ? Il y a ça, ou alors un autre verset encore. Non. Frère, le verset qui parle du ciel qui va s'ouvrir, et les anges vont donc venir les uns après les autres. Et on avait expliqué donc à ce moment-là que chaque ciel contiendra deux fois plus d'habitants que les malaïkas du ciel inférieur, et les anges du premier ciel, ils sont beaucoup plus nombreux que l'intégralité de la terre de la résurrection, ins et djinn ensemble. Ça, c'est la population des cieux. Donc, le ciel va s'ouvrir. Le jour de Qiyama, autre chose qui sera donc visible en ce jour. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Et les montagnes seront mises en marche et deviendront un mirage. Saraba, un mirage. En commentaire, dit Fatakuna Karramli, les montagnes seront réduites en poussière. Autant les montagnes étaient décrites au début de Amma Yatasa'aloun et placées les montagnes comme des piquets. On avait expliqué, bon, la traduction est approximative, ça veut dire quoi comme des piquets? Les montagnes permettent la stabilité de ce dunya, permettent un certain équilibre, mais ces montagnes qui sont tellement dures, solides, d'accord, ces montagnes deviendront poussière le jour de Qiyam. Et ça aussi, ça nous prouve la puissance d'Allah qui a créé ces montagnes aussi solides, mais Allah est capable de les anéantir en une fraction de seconde uniquement par son ordre. Regardez combien de temps il faut une personne pour casser une montagne. Prenez une roche de, je sais pas, calcaire, ou je sais pas comment ça s'appelle, basalte, autre chose, n'importe quelle roche de n'importe quelle montagne, on peut pas casser ça comme ça. Vous voyez, quand il y avait des travaux, excusez-moi, c'est en décalage, lorsqu'il y avait des travaux à Mecca, ils devaient casser Jabal Umar. Si quelqu'un connaît ce Jabal Umar, c'est une montagne, et une des montagnes de la Mecque, c'est vraiment de la pierre, hein, c'est de la pierre grise, très sec, très dure. Le nombre de dynamites qu'ils ont dû mettre pour casser la montagne, pour faire l'agrandissement, pour que les esplanades arrivent jusqu'à cet endroit, les travaux ont duré je ne sais combien de temps, je ne sais pas combien d'années, avant de casser complètement Jabal Umar. Et vous savez qu'en Arabie, quand ils travaillent, ils rigolent pas. C'est 24 heures sur 24. Il y a l'équipe du matin, il y a l'équipe du soir. Ça ne s'arrête jamais. Uniquement pour le khutbah de Jum'a, ils s'arrêtent de travailler. Mais sinon, en permanence, 24 heures sur 24, vous entendez les machines, les appareils, les dynamites, les tracteurs, les, comment on appelle ça, les trucs, ils cassent les montagnes. Ils ont pris je ne sais combien de temps pour casser, pour aplanir une montagne, afin de couler du béton et faire ce qu'ils font là, pour agrandir l'esplanade. Ça, c'est le maximum d'argent que l'homme possède, et il essaie d'enlever une création d'Allah qui est une montagne pour un but noble, sans le moindre doute. C'est pas ça la question. Vous pouvez comprendre comment les montagnes, c'est quelque chose de dur, et en une fraction de seconde, Allah Rabbul Izzah va anéantir l'intégralité des montagnes de ce dunya, même les plus hautes, l'intégralité des montagnes. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. Inna jahannama. Donc, combien de choses là? Combien de choses ont été visibles par les personnes? An-nafkhu fi s-sur, c'est pas visible. Parce que lorsque l'Israfil souffle, c'est là que les gens se réveillent. Donc, c'est pas quelque chose qu'ils vont voir réellement. Par contre, ils vont voir le ciel s'ouvrir. Ça, c'est un signe qui sera visible de l'intégralité, par l'intégralité des gens ressuscités. Deuxième signe que tout le monde va voir, c'est les montagnes réduites en poussière. Et troisième signe, et certainement le plus impressionnant, « Inna jahannama kanat mirfada ». L'enfer demeure aux aguets. Mais pour qui ? Les tarina ma'aba, un refuge pour les transgresseurs. Donc, inna jahannam kanat mirsada. À travers ce verset, les savants déduisent que le jahannam a déjà été créé par Allah Azza wa Jal. Et les personnes qui sont destinées au jahannam, leurs noms sont déjà inscrits sur la porte du jahannam. Donc, c'est quelque chose qui en même temps nous effraie. Le verset wattaqun nar allati u'iddat, u'iddat, c'est craignez ce feu, u'iddat qui a été préparé pour. C'est-à-dire que ce nar, cet enfer, ne fait qu'attendre ce moment où Allah Rabbul Izzah va lui livrer les gens qui lui sont destinés. Et lorsque, qu'Allah nous protège, ces personnes seront mises dans le jahannam aura une autre demande. Halim talati wa taqulu hal. L'enfer va demander à Allah Azza wa Jal de donner et d'envoyer encore plus de insan, parce que le combustible de l'enfer, c'est quoi? Waqoodouha an-nas wal hijara, qu'Allah nous protège. Le combustible de l'enfer, ce sont les hommes, les êtres humains et les pierres, qu'Allah nous protège. Donc quand les gens sont entrés dans le jahannam va demander à Allah Azza wa Jal d'envoyer encore et encore d'autres personnes. Donc inna jahannama kanat mirsada, c'est le lieu de rendez-vous pour ce genre de personnes. Quel genre de personnes? Les tarina ma'aba, pour les transgresseurs. Et on s'arrête à 40 minutes, inshallah. Juste, on aimerait comprendre c'est quoi at-tarina. At-tarina, ça vient de tourah, ça vient de taria. C'est la personne qui, littéralement, alladhi tajawaz al-had, la personne qui a dépassé les limites, la personne qui ne s'en est pas tenue aux ordres et aux interdits. Il dit qu'il y a différentes façons de dépasser les limites. On peut dépasser les limites concernant les huququllah, mais également les huququl adamiyyin, c'est-à-dire les huququl ibad. On peut dépasser les limites concernant le droit d'Allah Azza wa Jal. Et quel est le droit d'Allah Azza wa Jal? On m'a khalaqtul jinna wal insa illa li ya'budun. L'adoration d'Allah, l'unique. Celui qui n'adore pas Allah, ou celui qui adore autre qu'Allah, ben il fait partie des tarin. Il fait partie des personnes qui sont destinées pour le jahannam. Également, tajawuz al-had, comment on facile dit que le fait de sortir des limites, ça peut concerner wa amma at-tughyan fi huquq al-adamiyyin. Cette tughyan, cette désobéissance maintenant, peut englober ceux qui vont à l'encontre des droits des insan, à l'encontre des droits des gens, par exemple ceux qui font du tort, ceux qui vont atteindre les personnes de leurs biens ou de leur corps, ceux qui vont faire du mal aux gens, wa a'radhim ila ghayri dhalik. Donc ça aussi, ça fait partie des péchés graves et pour lesquels il y aura le jahannam pour expier ces fautes. D'où le khutba de la prophète alayhi salat wa salam, le khutbatul wada', et dans ce serment d'adieu, le prophète a dit inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun. Sachez, ô musulmans, que vos personnes, vos biens et ainsi de suite sont haram. Haram, pas dans le sens interdit, dans le sens sacré. Qu'un être humain ne peut pas porter atteinte à son prochain, ni physiquement, ni dans son intégrité, ni dans son honneur, ni dans ses biens. Tout ça, ça demeure des choses qui sont haram. Et ces droits de l'homme, réellement, dont on en est très fier, hein, dans notre constitution, dans le prophète, alayhi salatu wassalam, ils avaient tous énoncé lors du pèlerinage d'adieu, lors de ce sermon d'adieu, il avait expliqué les droits d'Allah, sans le moindre doute, mais il avait expliqué également les droits des gens, les droits des voisins, les droits des femmes, les droits même des personnes qu'on appelait entre guillemets esclaves à l'époque, mais qui en fait, le prophète même les avait décrits comme étant vos frères, qu'Allah a mis avec vous, et donc donnez-leur leurs droits. Notre prophète alayhi salatu wassalam a donné à l'humanité les leçons concernant la spiritualité, notre relation avec Allah, mais également une leçon concernant les huquq al-ibad, les droits entre les personnes. Et celui qui veut être sur le droit chemin doit respecter ces deux points. Les droits d'Allah, l'obéissance aux ordres d'Allah, l'éloignement du haram, et doit également fais extrêmement attention de ne pas se faire tromper par Shaitan qui te persuade que tu es un bon musulman parce que tu as une belle barbe, tu as la mosquée, tu portes des vêtements bien blancs, tu sens bon et ainsi de suite. Et en subhanallah, dans le background, hein, dans ses péchés intérieurs qu'il ne reconnaît même pas comme péché, ben, il est injuste avec femme et enfant, il ne rend pas visite à ses parents. C'est une personne qui a rompu les relations avec la famille. Ça, ce sont des péchés qui sont lourds en conséquence. Même si d'un côté, je suis au top en termes de spiritualité, je jeûne le lundi et le jeudi, je fais la prière de la nuit, je lis un hizb ou je ne sais combien de juz, de sipara par jour, je fais mes 5 prières quotidiennes en congrégation, mais je ne rends pas visite à mes parents ou j'ai rompu les relations avec frères, soeurs, et tonton, tante et ainsi de suite, je ne suis pas vraiment dans le droit chemin parce que j'ai donné les droits à mon Seigneur, mais je n'ai pas respecté mes engagements envers les insans, envers les gens qui me sont proches. Donc, inna jahannama kanat mirsada littarina ma'aba labithina fiha ahqaba, ils y demeureront pendant des siècles successifs. Alors, la traduction des siècles, on va dire, c'est un peu approximatif. Quand on va dans les commentaires des puristes de la langue arabe, on parle de ahqaba, ay baqina fiha mudda tawila. Ils vont y rester pendant très longtemps, sans vraiment parler de siècle. Donc, ceux qui vont rester, alors il y a deux catégories. Et là, nous voyons que ceux qui ont transgressé les ordres d'Allah concernant les droits du Seigneur, les droits d'Allah Azza wa Jal, shirk, kuf, bien assurément, c'est khuloud. C'est de le jahannam pour l'éternité. Mais ceux qui ont fait des péchés, mais qui ont respecté le droit d'Allah, de l'ibada, mais qui n'ont pas respecté les droits des gens, ceux qui ont fait des péchés dans d'autres domaines, c'est un passage de le jahannam, mais ce ne sera pas pour khuloud, bien sûr, ce ne sera pas pour l'éternité. Donc ça, on va, inshallah, développer la prochaine fois. Bon, ça ne va pas être très amusant, mais ça va être un enchaînement de versets concernant les azabs du Jahannam, les punitions et la situation des gens de l'enfer dans le Jahannam qu'Allah nous protège. Mais il est quand même nécessaire, hein, d'en parler. Au moins, ça c'est tarhib. Ça nous met en garde, ça nous permet de comprendre que l'enfer, Allah Musta'an, c'est quelque chose de terrible et qu'on doit en permanence demander protection à Allah Rabbul Izza contre le Jahannam et contre même la vision du Jahannam, contre le moindre approche du feu de l'enfer. Allahumma amin. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khair.